Le Grand Dialogue.
Sigikafoba.
Odewani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Hallo Gmoun.
Chenni Berry.
Sigikafoba. Le Grand Dialogue.
Quel bilan de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont au nombre de 3 personnes. Il s'agit de Mohamed Ould Metali de la plateforme, Ataï Ag Mohamed de la coordination des mouvements armés CMA et Serge Daniel, journaliste écrivain. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
4 ans déjà que nous sommes dans le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix aujourd'hui, honorable Mohamed Ould Metali. Qu'est-ce qui a été fait?
Bon, bonjour. Pour l'application de l'accord qui fait date aujourd'hui de 4 ans, je dirais que beaucoup a été fait. Certes, il reste beaucoup à faire, mais beaucoup a été fait, promettant. Parce que nous avons... D'abord, il y a eu un cessez-le-feu qui s'est concrétisé par... aujourd'hui, de très bonnes relations entre tous les mouvements. C'est-à-dire que, sauf que la fois dernière, tout dernièrement, on regrettait le dernier accrochage qu'il y a eu entre CME, MSA et puis SEMA, à Talataï. D'autre part, vous savez qu'il y a eu d'abord le découpage qui a été concrétisé, c'est-à-dire la région de Taoudeni et Menaka. Il y a eu la mise en place des autorités, le Cherk d'Al-Moussarat aussi de Chibrou. Il y a eu les autorités intérimaires qui ont été mises en place, qui ont fonctionné depuis. Il y a eu le mot qui a été fait encore, et je crois que tout dernièrement, on est à notre dernier passage. Le Sterling a été fait, et je crois que très prochainement, les visites ou contre-visites ont été faites. Aujourd'hui, on connaît le nombre de combattants qui sont aptes et qui doivent intégrer les rangs de l'armée et qui doivent aller dans les différentes bases pour aller subir de leur formation. Je crois que beaucoup a été fait, quand bien même, et tout ce qui n'a pas été fait sur le plan institutionnel, ainsi de suite, on est en train de travailler là-dessus. Je suis sûr qu'avec le nouveau gouvernement, c'est vrai qu'il aura, on va essayer de rallonger un peu la feuille de route, c'est-à-dire le chronogramme. Mais je crois que beaucoup semble être fait parce que très rapidement, il y aura l'intégration, ce qui va être le premier embryon de l'armée reconstituée. Deuxièmement, la révision de la Constitution, c'est en train de...
D'accord, on va revenir à cela. Est-ce que vous êtes d'accord également que beaucoup a été fait, Mohamed, Ataï Ag Mohamed?
Bonjour. En fait, oui. Je rejoins quelque part l'honorable sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été citées. Quand vous les prenez en nombre, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses réalisées, parce qu'il y a beaucoup de questions abordées. Mais dans le fond, quand vous recherchez l'impact réel, vous sentez que c'est superficiel à la base. Parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires. Quand vous prenez le taux d'intérimaire, c'est une question intérimaire. Les MOC, c'est intérimaire. C'est pas quelque chose de très mixte, interparti, de sorte qu'on puisse créer une inquiétude minimale avant de partir vers les projets essentiels sur l'armée, qui est l'armée reconstituée. Quand vous prenez au niveau aussi des mesures réglementaires et législatives qui ont été prises, elles ont été contestées depuis 2015, elles sont contestées sur le code de collectivité, sur la loi sur l'administration, parce que, quelque part, elles ne sont pas adaptées à la lettre. Mais il a dit quelque chose de très important, c'est par rapport au cessez-le-feu. L'esprit de l'accord, il est respecté, en globalité, parce que la véritable belligérance entre les acteurs qui émettent des revendications, parce que l'acteur revendicatif, ici, n'est pas en activité d'austérité. Ça, c'est déjà un grand acquis. Mais la lettre de l'accord reste à appliquer. C'est pourquoi, si vous référez aux différents rapports de l'Observatoire indépendant, qu'il faut beaucoup lire, qui dénombre les tâches à réaliser et qui dit les pourcentages et qui évoque le fait que nous sommes dans les superficiels depuis quelques années. Mais, quelque part aussi, depuis fin 2018, il y a une autre dynamique. Parce qu'il faut reconnaître qu'après l'accord, il y a eu beaucoup d'hostilité entre les partis, même des mouvements signataires. Ensuite, il y a eu un moment où chaque gouvernement qui vient, c'est comme si c'était un régime nouveau qui s'installe. On a du mal à créer la continuité gouvernementale. Ça fait qu'on reprend des choses, au lieu de continuer tout directement, on reprend des discussions qui avaient été abordées, donc un petit recul. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut. Il y a les ressources aussi qui manquent. Souvent, c'est des questions qui sont. Il n'y a pas de ressources pour les appliquer. Il faut des ressources. Il y a la volonté politique. Bon, elle est abstraite, la volonté politique. Mais quelque part, il y a des choses qui ne peuvent pas bouger sans un courage politique. Par exemple, la question de la révision constitutionnelle, c'est une question où il faut faire comprendre l'opinion publique. L'esprit, d'abord, n'est pas. Donne l'impression que c'est l'accord qui l'exige, mais il faut aussi être dans les besoins qu'il faut d'une refondation complète du système démocratique au Mali. Donc, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas touchées. La zone de développement, qui est un élément aussi phare. Qui est une question. Donc, jusqu'ici, je pense qu'il y a des questions de fond qui viennent d'être abordées, mais on a du mal à être dans les textes de ces questions-là, dans les lettres et aussi dans le courage politique adéquat pour les affronter. Et nous espérons qu'avec la nouvelle dynamique du gouvernement en place, qui a essayé aussi d'intégrer des mouvances politiques qui contestaient beaucoup de choses dans la mise en œuvre, nous espérons que le débat à l'intérieur du gouvernement va pouvoir renouer une dynamique pour qu'on passe maintenant aux véritables tâches qui sont la concrétisation de l'accord pour la paix et la réconciliation.
D'accord. Serge Daniel, quel bilan faites-vous de cette mise en œuvre?
Alors, pour la mise en œuvre, je dirais que l'application de l'accord de paix est poussive, disons les choses clairement. Et si vous voyez sur papier, c'est très beau, hein, ce qui se passe, ce qui se dit, mais dans la réalité, bon, vous avez l'absence des combats, l'honorable Oulmatali l'a dit tout à l'heure, vous également, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quand même très aléatoire, tout cela. C'est pas, excusez-moi, c'est pas du concret. Vous avez autre chose, c'est qu'on a identifié. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans l'application de l'accord, c'est de voir en 2018, les élections n'auront pas pu se dérouler au Mali sans les groupes armés, parce que les groupes armés ont sécurisé le processus de paix. Et ça, c'est ce dont on peut rêver, c'est-à-dire la future armée embryonnaire. Vous avez Oulmatali, qui est, disons, moi, je l'appelle pro-gouvernemental, mais il n'aime pas tellement ça. La CEMA, contre-gouvernement, mais ils n'aiment pas ça aussi. Ce qui est très important, c'est de pouvoir les voir ici aujourd'hui. Ce n'était pas possible. Nous étions les seuls à pouvoir les interroger séparément. Parce que si le gouvernement ne voulait pas, on les traitait les uns de terroristes, les autres de ceci. Aujourd'hui, ils sont ensemble et c'est quelque chose de très important. Les deux, c'est très important, les deux composantes de ces groupes ont appelé à voter pour le président de la République qui a été élu. Donc, ils se sont entendus sur quelque chose. Pourtant, la CEMA et contre le président, enfin, théoriquement, puisque le président Kidal est toujours contrôlé par la CEMA, je dis, ce sont des avancées quand même importantes de voir. Ne serait-ce qu'on soit là aujourd'hui, ils ne sont pas venus armés, ils sont pas, parce qu'ils ont parfois des armes, il faut faire attention à eux, mais ils ne sont pas venus non plus escortés par des gens qui ont des armes. Je trouve que c'est beau. C'est une belle image que nous avons aujourd'hui. Mais cela dit, l'accord de paix d'Alger, pour moi, est un peu la poudre de perlimpinpin, c'est-à-dire que si nous voulons, et on en reparlera, j'en aurai terminé pour ce premier tour de table, si on veut effectivement sortir de la crise lors du Mali, des choses ont été faites, mais il faut s'asseoir et maintenant ne plus faire un chronogramme. J'ai calculé la dernière fois, on a fait 12 chronogrammes qui n'ont pas été respectés. Donc il faut qu'on puisse s'asseoir, dire les choses clairement. Nous, ça, nous pouvons le faire, ça, nous ne pouvons pas le faire avant le référendum, parce qu'il faut aussi un référendum. Le référendum constitutionnel, c'est aussi pour pouvoir appliquer l'accord de paix d'Alger. Donc voilà, donc je dirais, application poussive, on peut s'en sortir si on veut, mais à condition de revoir cet accord-là, pas dans la totalité, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus revoir, mais l'adapter, si vous permettez, à la réalité du terrain.
D'accord. Oulmatali, pourquoi Attaque Mohamed pense que la plupart des avancées par rapport à la mise en œuvre de l'accord pour la paix aujourd'hui sont superficielles?
Bon, moi, je le comprends. Je le comprends parfaitement très bien. Parce qu'il a l'envie à ce que les choses se déroulent normalement pour qu'il y ait la quiétude au nord, comme souhaité. Mais il faut vous dire, il faut savoir qu'on dit c'est l'accord de pour la paix. C'est-à-dire que c'est l'accord qui va amener la paix. Donc c'est obligé qu'il traîne. C'est obligé qu'il prend toute cette lenteur parce que c'est un peu difficile à le comprendre. Vous savez que le problème du nord du Mali, c'est un problème immense. Ça fait quand même les deux tiers du pays où les populations, où cette zone qui a été occupée à un moment donné, où l'absence de l'État était effective. Si aujourd'hui, par exemple, les populations sont revenues telles qu'ensemble, y compris les mouvements, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'application d'accord si les deux parties principales signataires ne se mettent pas d'abord d'accord pour être avec le gouvernement. Aujourd'hui, moi, c'est la première fois que je peux vous dire ces derniers temps qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a les vrais signataires de l'accord, c'est-à-dire que nous sommes tous maliens, État, deux parties signataires, CEMA et plateforme, ça c'est le Mali. C'est pourquoi aujourd'hui, pour la plupart des discussions, c'est en partie malienne qu'on se retrouve. Et c'est dans ces réunions en partie malienne qu'on arrive à dissiper beaucoup de malentendus. Et c'est ce qu'on est en train de suivre tout de suite. Donc moi, je trouve que rien ne pouvait se faire en réalité sans qu'il y ait quand même cette première étape de confiance qui est rétablie aujourd'hui entre les différents signataires.
Est-ce que cela n'est pas encore superficiel?
Ce n'est pas superficiel parce que quand il dit, quand il parle de l'intégration, quand il parle du MOC, le MOC aujourd'hui, on a fait les Sterling et les gens, ils sont même matriculés aujourd'hui.
Je parle du fait que les mouvements signataires, le gouvernement, toutes les parties se retrouvent pour discuter, échanger, se retrouvent ensemble. Est-ce que ce n'est pas superficiel?
Non, ce n'est pas superficiel. On se retrouve pour l'essentiel. Si on se retrouvait, on se retrouve pour l'essentiel. L'essentiel, il est immense. Il n'est pas seulement du côté militaire. Sécurité, il est du côté aussi développement, il est du côté humanitaire. Il y a beaucoup de structures qui sont en train de se faire. Est-ce que vous savez que quand on parle de l'aide humanitaire, ça ne veut pas dire que l'aide humanitaire n'y va pas. Mais comme ce n'est pas supervisé ainsi de suite, souvent ça passe alors qu'on n'a pas l'information. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait que l'accord est pris à bras-corps par les trois parties, ça veut dire que là où il y a un couac, on va essayer de le retrouver et surtout que depuis 2018 jusqu'à nos jours aujourd'hui, depuis 2019 jusqu'à nos jours aujourd'hui, nous avons une concertation chaque semaine au niveau du ministère de la Réconciliation. Toutes les parties retrouvées ensemble et on discute en loin en large de quoi il s'agit encore.
Alors, ce qui donne l'impression que l'accord n'avance pas, il y a des choses qui se font, et c'est que et c'est bloqué quelque part. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit qu'Idal est toujours entre les mains de l'ex-rébellion. Je pense qu'il faut arrêter de penser que c'est parce que Kidal va rentrer dans la République que l'accord est appliqué. Que ce soit Oul Battali...
Mais ce serait une avancée quand même.
Ce serait une avancée fondamentale. Mais c'est focalisé là-dessus, c'est ce que je veux dire. Quand vous discutez avec la Vox Populi, c'est de dire, ben oui, mais l'accord n'est pas appliqué puisque Kidal n'est pas... C'est vrai que Kidal doit... Le gouverneur est là-bas, vous me direz symboliquement, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que le gouverneur est là-bas sans son armée, etc. Mais je veux dire que... Il ne faut pas penser que c'est parce que Kidal n'est pas encore totalement dans la République que l'accord n'est pas appliqué. Oui, pourtant, je ne suis pas tellement un fanatique de l'accord de paix. Mais je veux dire que pour la Vox Populi, le fait que Kidal soit encore dirigé par des ex-rebelles, on dit, bon, voilà, ce n'est pas tellement ça. Je pense qu'il y a des avancées. Je suis d'accord avec Oul Battali. Il y a des avancées, c'est très important. Il n'y a plus de combat parce que c'est quand même important. Mais mon point de vue, c'est que si vous voulez que les choses avancent, il faut réunir tout le monde à nouveau. Pas pour signer un nouvel accord, je ne pense pas que ce soit utile, mais pour dire, en fait, ça, nous nous sommes trompés. Il y a, par exemple, une chose qu'on n'a pas dans l'accord, qu'on n'a pas tenu compte, on n'a pas tenu compte d'une chose dans l'élaboration de l'accord. C'est la vision transnationale de la crise. C'est-à-dire que s'il fallait recommencer aujourd'hui, c'est pour ça, moi, je souhaite que les gens s'asseyent encore à nouveau, se retrouvent autour d'une table pour discuter, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de la crise du nord du Mali sans parler de la crise au Niger, sans parler de la crise dans les pays voisins, puisqu'on voit que les groupes armés, les groupes parents terroristes utilisent ce que j'appelle la géographie, la technique des frontières. Tantôt ils sont au Mali, tantôt ils sont au Burkina, tantôt ils sont au Niger. Donc forcément, il y a une dimension, transversale de la crise qui n'est pas prise en compte.
Est-ce qu'entre la CMA et la plateforme, tout va bien ou est-ce que ces rencontres également sont superficielles?
Bon, moi je pense que... Moi, je sais quand même que sur beaucoup de questions, nous avions des points communs. Par exemple, sur les questions de la révision constitutionnelle, nous avions une plateforme commune de discussion sur les choses que l'on pense utiles à intégrer dans la nouvelle constitution. Nous avons rencontré les comités d'experts ensemble, remis le même document, plateforme CMA, qui cite les éléments que nous pensons être imminents pour la prise en charge dans le cadre de la révision constitutionnelle. Donc, sur les questions majeures, sur les questions d'EDR aussi, nous concertons sur lorsqu'il y a des blocages, sur des questions, par exemple, des visites contre visites. Nous avions des stratégies communes pour trouver des solutions à cela. Et sur le terrain, il n'y a pas d'hostilité. Nous avions localement mis en place des commissions dans le cadre des règlements par voie de justice transitionnelle, certains litiges qui ont eu lieu entre 2015 et 2017. Et ça se passe très bien, pratiquement. Donc, je ne vois pas...
Quels sont les points de divergence, donc?
Bon, ça reste le fait que chaque organisation a sa propre politique, a sa propre vision des choses. Nous avions une vision, par exemple, au sein de la CMA. Vous avez encore des tendances séparatistes. Et ce n'est pas un crime, une tendance séparatiste. Vous avez des autonomistes, vous avez des nationalistes. Vous avez ce qu'on pense comme la plateforme...
Vous êtes toujours dans cette optique de tendance séparatiste.
Nous avons une plateforme politique qui reconnaît l'intégrité territoriale du Mali. Mais, évidemment, c'est un droit, c'est normal que dans un pays, vous ayez des gens qui ont encore des visions politiques sur la séparation ou sur la fédération. Ce n'est pas, il faut les convaincre du contraire. Ou il faut appliquer des choses qui vont les amener à comprendre que ce n'est pas nécessaire. Mais ce n'est pas un crime d'avoir une vision séparatiste dans une république. Ce n'est pas un problème. Ta vision peut être une question politique, mais après, ce n'est pas comparable au terrorisme. Ce n'est pas comparable. Quand on compare ça au terrorisme, c'est très grave. Donc, c'est, dans le monde entier, vous avez des pays qui sont plus souverains, qui sont plus stables, mais qui ont en leur sein des personnes qui ont des discours encore de type autodétermination et tout ça. Mais après, ça dépend de la gouvernance qui est mise en place. Et souvent, ça vient de sorte que ces gens cherchent des positions. Mais ça, ce n'est pas un problème.
Donc, mais tant que ces gens auront cet esprit, cette tendance séparatiste, est-ce qu'il y aura la paix?
Ils l'auront tant que certains pensent que la souveraineté, c'est imposer l'État. Tant que les gens pensent que l'État, c'est « et », les autres, c'est les gens qui doivent subir l'État. Et tant que les gens pensent que l'autorité d'État, c'est voir que l'État est contraignant sur l'espace sans aucune forme de gestion consensuelle, ces gens peuvent l'être comme ça. Donc,
Du moment où la CMA a accompagné les élections, certains disent évidemment que la CMA a même demandé qu'on vote pour le président
CMA
de la République.
La
Est-ce qu'on peut toujours dire que ce président a été imposé à la communauté?
Non, écoutez, de toute façon, le président, c'est, bon, écoute, moi je sais que des soutiens politiques existent, même ici c'est contesté. Mais la capitale s'est contestée. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui aux Maliens que votre président, il est légitime. Ils savent, il y en a à Bamako qui l'ont contesté, qui le contestent encore, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas à moi de leur dire que c'est vraiment le président de tous les Maliens. Mais à un moment donné, dans un contexte particulier, il s'avère que les gens pensent qu'il faut aller vers des choses pareilles. Il faut trouver au moins un interlocuteur légitime au niveau du gouvernement central. Et il faut le faire comme ça. Mais après, la CMA, de façon globale en tant que coordination des mouvements de l'Azawad, a signé l'accord, une plateforme qui reconnaît l'intégrité, l'international et tout ça, et elle est de cette démarche, c'est l'application de l'accord. Mais il n'est pas un crime, il n'est pas une infraction du droit international que des personnes dans un pays aient des motivations ou des intentions politiques ou tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut les travailler.
D'accord.
Il faut le construire par le temps.
Est-ce que vous êtes d'accord sur ces points de divergence entre CMA et plateforme?
Bon, c'est-à-dire que divergences, oui, mais pas divergences en réalité qui sont aujourd'hui susceptibles. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que ce qui nous lie, nous, à la CMA et puis au gouvernement du Mali aujourd'hui, c'est l'accord. La CMA est d'accord pour l'accord, la plateforme est d'accord pour l'accord, l'État malien est d'accord pour l'accord. Aujourd'hui, les voies et moyens par lesquels il faut appliquer cet accord, c'est là où il y a souvent des petites divergences, et c'est pourquoi on les règle à différents niveaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une confiance qui a été rétablie. Il y a un patriotisme qui renaît, comme il a dit tout de suite. Il faut essayer de convaincre. Parce que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que c'est un accord de la République du Mali et qui doit être au bénéfice de l'ensemble de l'État du Mali. C'est pourquoi moi,
Certains qui pensent toujours à la séparation.
Bon, c'est des parties très infimes par rapport au travail qui est engagé. Ce qui est sûr et certain, il faut se rendre compte que c'était des séparatistes et ça ne fait que 4 ans. Aujourd'hui, en tout cas, quand ils regardent les réalisations qui sont en train de se passer tout de suite, il y a plus de ceux-là qui sont en train d'accompagner la volonté du gouvernement et l'accord que ceux qui sont en train de s'opposer. Et je reviens, comme l'a dit aussi cher Daniel, vous savez que les gens, comme il le dit, on pose toujours le problème Kidal. Mais Kidal, en réalité, depuis qu'on a signé le 20 juin l'accord, c'est l'intégrité territoriale du Mali. Donc théoriquement, nous sommes des Maliens. La CMA est malienne. Les chefs des villages, c'est des gens de l'administration.
L'armée malienne est présente là-bas?
L'armée malienne n'est pas présente partout, pas à Kidal seulement.
Pourquoi?
Mais c'est parce qu'il y a un accord qu'on est en train d'appliquer et on dit que maintenant, pour que l'armée soit déployée sur l'ensemble du territoire, il faut qu'elle soit reconstituée. Et ça, c'est dans l'accord. Et c'est pourquoi on est en train d'aller pour accélérer ce passage-là, pour que rapidement, qu'il y ait ce bon nombre-là, qui va jusqu'à 2000 et quelques, qui vont aller subir une formation. Il allait être...
1309.
Voilà, c'est important.
Alors, Serge, que pensez-vous de ces points de divergence qui sont jugés minimes par...
Oui, c'est-à-dire que... Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir deux groupes désormais. Parce qu'on avait le MNLA d'un côté, etc. Maintenant, vous avez la CMA. C'est vrai qu'il y a 3 branches. Et je le disais la dernière fois, si vous prenez quelqu'un comme Al Gabas, que je connais bien, ce n'est pas quelqu'un qui est indépendantiste. Mais je pense que M. Bilal est indépendantiste, par exemple. Et que, bon, quand même, vous avez un troisième allié, M. Il devait venir, mais il n'est pas venu.
Le Sidati, le président de la CMA.
Il est plutôt autonomiste, il veut une indépendance. C'est un enseignant, d'ailleurs, je crois. Il veut plutôt une sorte d'autonomie là, dans le terme de décentralisation. Donc, il y a un peu de tout au sein. Et puis, quand même, c'est une présidence tournante qu'ils ont. Je crois qu'il faut cette volonté politique. Mais le problème, c'est que j'ai déjà couvert plusieurs rébellions. Je vais vous dire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, j'y étais. Mais on a fait les élections en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et les rebelles avaient toujours les armes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas déposé toutes les armes avant les élections. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils disent est simple. Si nous déposons les armes, ça veut dire que nous ne représentons plus rien. Je ne suis pas en train de les encourager. Je pense qu'il faut respecter le processus de paix, mais qu'il y ait davantage la confiance entre les acteurs. Et quand vous allez avoir plus de confiance, vous allez voir, les choses vont se décanter, effectivement. L'accord, l'application est poussive, je le répète, mais on peut aller plus loin si vraiment, ça c'est mon point de vue, si vraiment on se réunit encore une fois pour dire mais ça on ne pourra pas le faire, ça on peut le faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire.
D'accord.
Ça c'est mon point de vue.
Je pense qu'en fait, il y a des confusions qui sont souvent faites sur, par exemple, comme le Kidal, par exemple, qui est prise comme étant une référence dans coûte que coûte souveraineté, où l'armée est redéployée coûte que coûte comme étant une forme de souveraineté, tout ça. Et pendant que là-bas aussi, les gens attendent. En fait, une contrepartie à cette évolution. On dit que c'est l'armée reconstituée qui va être déployée. Deuxième chose, les armes, c'est d'abord les esprits qu'il faut désarmer. Les armes, accéder, c'est très facile. Hein. Vous pouvez désarmer tout le monde et tout le monde peut se procurer une arme dans des mois. Hein. Ça, il faut le dire, c'est très facile les armes. Mais c'est désarmer les gens, les intégrer dans une logique de comprendre qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de passer par la violence pour se faire entendre. C'est cela l'esprit de construction de la paix. Et tant qu'on n'a pas adopté cette démarche, comprendre que les défis sont ainsi et qu'on pense que la République, c'est le bien d'une portion de considération pour X ou Y, et que tant que celle-ci ne flotte pas à Tinzobatine avec une présence assez réelle, comme elle flotterait à Bougouni, on pense qu'il n'y a pas de souveraineté. Mais ces personnes aussi rêvent avoir un rôle à Bougouni, si c'est la République. Ils rêvent avoir un rôle à Kaï, si c'est la République. Donc, mais ceci, c'est travail. Donc, on vient d'une crise qui n'est pas commencée en 2012. 2012, c'est un cycle. Après, les gens sont passés du fait qu'ils revendiquent ne serait-ce qu'ils n'aient pas payé des impôts à une loi qu'ils ne reconnaissent pas, jusqu'au fait qu'ils ont revendiqué des espaces. Et maintenant, ils sont venus avoir des couleurs, à réclamer une certaine identité, des particularités. Et ça évolue. Mais si on ne traite pas dans les causes, si on se met à traiter uniquement les conséquences de chaque dérive, de chaque cycle de conflit, on ne traite pas les causes, on ne reconnaît pas ce qu'il y a, comme l'accord le dit, il dit beaucoup de choses. C'est pourquoi l'accord révoque complètement certaines questions. Donc, aujourd'hui, faire la République, reconstruire la République dont on rêve, qui est celle de l'approche qu'on a, c'est accepter qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes, ils ne sont pas que sécuritaires. Ils sont politiques, ils sont fondamentalement historiques, et ils sont une réponse de réconciliation, de justice historique. Ils sont beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte en tant qu'État courageux avec une politique démocratique très courageuse. Et c'est cet esprit-là qu'il faut développer aujourd'hui dans les pays.
Vous avez regretté un manque de courage politique. Est-ce le principal blocage de la mise en œuvre de l'accord?
C'est un des éléments. Parce que quand vous êtes dans un pays en crise et que vous savez que ce n'est pas l'ordre, les choses ordinaires, l'intégration par exemple. L'intégration, c'est bien que ce n'est pas évident que dans un pays, on amène des gens dans une armée avec des armes. On recrute des gens à 18 ans. On a des règles qui sont fixées. Il y a une loi. Mais on a d'abord fait un décret qui fixe les critères d'éligibilité à l'intégration. Et ces décrets, ils énoncent des choses qui ne sont pas dans un état normal. Il dit que la personne peut être intégrée à 36 ans, à 45 ans, avec une arme, avec ça, avec cela. Donc on est à l'exception. Et quand on est à l'exception, il y a des éléments qui sont dans un pacte politique, qui est l'accord pour la paix. Et ces éléments-là, il faut que le gouvernement, qui est le premier responsable de la mise en œuvre, que nous devons accompagner si nous sommes dans une logique de paix, et nous le faisons, doit trancher, à un moment donné, sur des questions. Il doit comprendre que nous sommes dans une transition après un conflit. Parce qu'un conflit, terminer la guerre n'est pas forcément rentrer dans la paix. La paix, c'est un agenda, c'est une stratégie. Donc, il faut mesurer les dimensions. Elles sont holistiques, les dimensions. Il faut de la responsabilité, il faut de l'efficacité de cette démarche-là. Donc, les processus de paix engagés, M. Oumattali l'a bien honorable à citer, nous sommes dans un accord pour la paix. Ce sont les actions que l'on pose qui sont les ingrédients de la construction de la paix. Donc, c'est ce que je voulais ajouter.
Oulmetali, pensez-vous qu'il y a un manque de courage politique aussi?
Bon, c'est-à-dire que je ne dirais pas qu'il y a un manque, mais c'est-à-dire qu'il y a une dynamique politique qui est en train de se développer petit à petit. Parce que vous savez qu'un accord de rébellion, certes, l'État le signe, mais l'État il a l'obligation de convaincre tous ses fils, du sud jusqu'au nord. Et là, ça prend du temps. Parce que quelle que soit l'application de l'accord, un accord n'est jamais un décret. C'est un accompagnement, c'est une volonté politique. Et la volonté politique, ce n'est pas seulement le président de la République, c'est la nation malienne. Et ça, c'est ce que les gens sont en train de travailler de tous les temps. Je vais vous rappeler seulement que quand je parle de la volonté, de confiance qui se retrouvait entre les mouvements, ça veut dire que, comme les gens le disent, ce n'est caché à personne, nous, on était appelés les pro-gouvernements et ils étaient appelés les séparatistes. Donc, vous savez qu'il y avait un clivage. Et les différents combats, c'était entre les deux parties. Si les deux parties, aujourd'hui, se retrouvent avec un point commun qui est l'accord, c'est déjà important. Parce que rien ne pouvait se faire en réalité s'il n'y avait pas cette confiance. Et cette confiance aussi, il faut l'amener à la société civile, il faut l'amener aux partis politiques, il faut l'amener à... Vous savez que rien que...
Mais certains pensent que les deux parties ont tout à gagner à se retrouver parce que c'est des perdiums, c'est de l'argent qui coule. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça?
Tout ce qui est en train de... Je veux vous dire quelque chose. Quand il s'agit de perdium, il n'y a jamais eu de perdium, mais il a eu des commissions, comme on appelle le CSA, et 4 sous-commissions. C'est tout ce qu'il y a comme par rapport gain à réalité par rapport à cette rébellion. Mais la rébellion aujourd'hui, depuis qu'on
Mais dans ce cas, quelles sont les sources de revenus des
depuis qu'on a signé l'accord, depuis qu'on a signé l'accord le 15 mai et on l'a parachevé le 20 juin, on n'a été qu'une seule fois. Une seule fois par un mois approvisionné par l'État. Une seule fois.
Les rencontres du CSA ne sont pas financées.
Les rencontres du CSA ne sont pas financées. Même si elles sont faites. Il n'y a pas une rencontre qui n'est pas financée, mais toutes les rencontres au Mali qui se font, est-ce qu'elles ne sont pas financées?
D'accord. Serge, je vais mettre cette expression entre guillemets. Comment expliquez-vous ce manque de courage politique?
Oui, vous auriez pu inviter un membre du gouvernement.
On l'a fait, ils ne sont pas venus.
Ah, ils ne sont pas venus, le gouvernement a refusé. Donc, c'est donc ce qui n'est pas là. Celui qui n'est pas là n'a pas droit à la parole, malheureusement. Je pense que du côté du gouvernement, quand vous discutez avec les interlocuteurs que vous avez, et ils font attention à ce que pense l'opinion publique. Je pense que c'est là où il y a un manque de volonté politique, de courage, pas de volonté, de penser que l'opinion publique est l'opinion publique qui est versatile par rapport à tout ce qui est groupe armé. Si vous aviez vu, moi j'ai vu des débats ici à Studio Tamani, j'ai eu peur, j'ai vu des responsables de la société civile avec des ex-rebelles, c'était la bagarre, vous êtes des terroristes. Ben oui, c'est vrai qu'il y a des terroristes dans le nord du Mali, c'est vrai qu'il y a des trafiquants de drogue dans le nord du Mali. Bon, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, comme le disait mon ami Maître Konaré, que j'aime beaucoup, mais je ne m'entends pas avec lui sur ce sujet-là. Est-ce que vous voyez? Le gouvernement a une responsabilité. Quand vous signez des accords, il faut respecter ces accords. Si vous ne pouvez pas respecter ces accords, ce qui peut arriver, parce que demain, on peut décider d'aller fêter chez Oul Matali, mais la pluie peut nous empêcher, etc., il faut avoir le courage de le dire. C'est pour ça que je dis, moi, ce qui va être déterminant pour l'application de l'accord de paix, et vous allez le voir sur le terrain, c'est cette armée nationale réunifiée. Quand on va voir une belle photo de l'armée malienne, mais avec de nouveaux engagements, parce qu'il ne faut pas revenir pour commettre les mêmes erreurs, les mêmes fautes, je dirais. Quand on va voir sur le terrain, je vous l'ai dit tout à l'heure, les groupes d'armées ont sécurisé une partie du processus de paix en 2018. Et je pense même que s'ils n'avaient pas participé à cette sécurisation du processus de paix, on n'aurait pas eu des élections. C'est-à-dire qu'il faut dire « il y a eu le passé ». On ne peut pas oublier le passé. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a des commissions d'enquête qui sont créées. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Mais si on veut aller de l'avant, il faut pouvoir d'abord pardonner, mais pardonner une partie sur de nouvelles bases. Et de ce point de vue, j'en aurais terminé, je trouve que le gouvernement de la République a une grande part de la responsabilité. C'est l'État. C'est l'État qui est soutenu ensuite par des pays amis, les pays étrangers qui participent au processus de paix.
Et justement, Ataï regrette que l'État ne soit pas une continuité. Selon lui, à chaque fois qu'un nouveau gouvernement
mais
un retard.
Je pense que c'est cela qui est le problème aussi. J'ai vu une image très, très, très forte avec l'ancien premier ministre Soumidoubou Bemayga. Il y avait une délégation étrangère qui était venue. Soumidoubou Bemayga était là. Les ex-rebelles étaient là. Et j'ai vu un ex-rebelle dire que M. Boubé, c'est-à-dire le Premier ministre, parle au nom de tout le monde. C'était très fort comme image. Je ne voulais pas le citer, mais c'est très fort. Je sais l'émotion que ressentait le secrétaire général des Nations Unies de voir des ex-rebelles dire aux représentants du gouvernement « parler au nom de tout le monde ». Ça veut dire qu'à un moment, ça va. À un moment, ça avance. Mais le problème, c'est que quand vous échangez d'équipe, c'est normal, tout recommence à zéro, si vous voulez. Et c'est ça aussi nos pays. C'est ça qui est dommage. Vous avez, dans un pays comme le Mali, on a eu six premiers ministres, Oulmatali, on a eu 4 à 5 ministres de la Défense. Donc, de la même manière, donc, quand chacun arrive, il faut que ça rebelote. Et donc, c'est cela. Donc, il faut mieux créer une structure un peu pérenne pour que, même si le gouvernement change, qu'on puisse avancer. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir.
Si vous avez accepté que Soumaïlou Boubé Maïga parle au nom de tout le monde, est-ce que vous acceptez que Boubou Cissé parle aujourd'hui au nom de tous les acteurs ?
Écoutez, je pense qu'il ne faut pas focaliser les choses sur les individus. Mm. C'est très dangereux. Mm. C'est sur le consensus politique qu'il faut. Ça, tout dépend de la circonstance. Mm. À un moment donné, il arrive que les partis s'embarquent dans une démarche tellement positive que ça devient banal. Et ça devient une sorte de galanterie ordinaire. Comme ça peut se passer dans cette salle, à un moment donné, je peux être d'accord avec tout le monde ici et laisser tomber. Donc, ce sont des actions, tout ça fait partie de la stratégie, de la manière de travailler, de la responsabilité, de l'efficacité dans le travail, qui fait que cette confiance naît. Parce que la confiance, c'est pas aussi quelque chose aussi qu'on nourrit, il faut la nourrir. Et il y a autre chose, c'est que j'ai l'impression que les gens, j'ai parlé tout de suite des causes et des conséquences, c'est que nous avons un passé, il faut l'assumer. Et ce passé, il a ses raisons. Ces raisons, il faut les trouver. Et si on les traite, certainement qu'on va trouver la solution. Pour l'international, une véritable internationale, une véritable souveraineté, parce que ce n'est pas que militaire la souveraineté. La souveraineté, il faut l'inculquer chez les populations. Si vous prenez quelqu'un qui habite à Bujbeha, puis il n'a jamais vu un drapeau malien, qui n'a vécu de la garde nationale de toute sa vie, depuis la naissance, il n'a jamais vu une école, qui a vécu de la garde nationale qui passe en vitesse, qui lui balance une poussière, vous pensez que c'est ce que c'est la République ? Jamais. Et pourtant, aujourd'hui, il faut prendre en compte la dimension spatiale dans cet esprit de souveraineté. La présence physique au sens réel. Donc, aujourd'hui, quand vous focalisez les choses, je sais qu'il y a une méconnaissance du point de vue public. Je pars sous contrôle de M. Serge Daniel. Il sait très bien que pour la criminalité transnationale organisée, lorsqu'on en parle, les gens pensent uniquement aux armes et à la drogue. Mais le plus grand crime organisé, c'est la corruption. C'est la corruption qui est le premier crime organisé au monde et au Mali. Le vérificateur général fait état de 24 milliards au moins chaque année qui sont partis par la corruption. Ça fait au moins 2 fois, 3 fois ce qui disparaît dans un conflit au Nord. Mais les gens ne le savent pas. Donc, quand l'opposition dit « je ne reconnais pas le président de la République » pendant des années, personne ne trouve ça anormal. Et pourtant, c'est un président élu et je ne le reconnais pas. Il est à Bamako, il est tranquille, il sait qu'il ne reconnaît pas le président de la République. Personne ne trouve. Oui, quand même, mais il ne le reconnaît pas, il ne fait pas avec, il n'a jamais reconnu comme tel. Mm. Et ce n'est pas considéré comme quelque chose de très grave. Mais moi, je ne vais pas avoir la position de dire que je ne reconnais pas un tel gouvernement parce qu'il ne me convient pas.
Mais n'avez-vous pas d'autres moyens de revendiquer à part les
quand
armes?
Quand il y a un putsch qui viole la Constitution, donné.
Mais n'y a-t-il pas d'autres moyens de revendication que les armes? N'y a-t-il pas d'autres moyens de revendication que les armes?
Mais vous savez que les gens qui ont pris les armes ont été contraints de prendre les armes. Comment? Mais ça, il faut aussi que la CVGR travaille. Mmh. Vous verrez que les gens n'ont jamais envie de prendre les armes. Personne n'a envie de la guerre. Une fois, à Kidal, il y a une enquête sur les femmes. On a demandé aux femmes est-ce qu'elles ont été violées. Une femme est venue se plaindre pour violence sur les femmes. Mmh. On lui a posé la question, est-ce qu'elles ont été violées? Elle dit non. Agressée physiquement, non. Mais c'est quoi votre violation? Elle dit, ma violation, c'est de savoir que ma mère a vu mon père et mes frères devoir prendre des armes pour avoir un rôle dans leur pays. Ça, ça m'a fait mal. Ma mère, elle décide avec ses mal. Moi, aujourd'hui, le fait de savoir que mon fils est obligé de porter une arme pour espérer qu'on sache qu'il existe dans la République et qu'il doit avoir un rôle pour l'intégration, ça me brise le cœur, ça me fait mal.
Est-ce qu'ils sont réellement obligés à le faire?
Si je suis dans une république et que j'ai aucun rôle, et qu'on me piétine, et qu'on me fait payer des impôts que je ne reconnais pas, et que j'ai aucun rapport avec à 1800 km, mais pour moi, on me contraint. Si je revendique, je demande, il n'y a rien qui se passe, et moi, donc, je dis, bon, ça c'est mon espace à moi, donc je le contrôle, je vais trouver une solution, chercher une solution, c'est une contrainte. Lorsque la répression est utilisée comme solution, où tout le monde est visé, les femmes, les enfants, les foyers, tout le monde, la contrainte à l'exil. Mais c'est une contrainte à la prise des armes. Mais
d'accord.
Ça, c'est pas à moi de trancher dessus.
Et vous l'avez dit, 4 ans déjà que cet accord a été signé, qui doit résoudre toute cette solution. Il y a des blocages, et vous l'avez dit, parce que l'impact n'est pas visible, parce que les choses sont superficielles, parce que l'État n'est pas une continuité, parce qu'il y a un manque de ressources, parce qu'il n'y a pas un courage politique. Alors, quelles peuvent être les solutions face à tous ces problèmes, Oulmatali Metali?
Moi, je pense qu'il faut revenir sur terre. Ce qui est le plus important pour nous tout de suite, il ne s'agit pas pourquoi vous avez pris les armes. Il s'agit aujourd'hui d'appliquer avec toute la bonne volonté l'accord d'Alger qui est en train de remettre tout de suite.
Certains pensent que cet accord doit être révisé même.
Ceux qui pensent comme ça, c'est des gens qui n'aiment pas la paix. C'est pourquoi la paix n'est pas seulement celui qui a l'arme qui n'aime pas la paix. Tu peux être aussi civil et tu n'aimes pas la paix.
Mais le document n'est-il pas limité aujourd'hui vu le contexte?
Le document n'est pas limité. Ce qui est limité aujourd'hui, ce qui est limité aujourd'hui, peut-être il faut aller à d'autres sensibilisations pour sensibiliser les populations, pour que la nation malienne, les populations maliennes s'approprient. Moi, je trouve qu'il y a...
Est-ce que cette sensibilisation n'est pas également du rôle des groupes armés aussi?
Vous savez que le groupe des armées, je suis d'accord, c'est le rôle du groupe des armées, mais il faut être accompagné financièrement. Et pour être accompagné financièrement, il faut l'État. Et tout ce qui doit se faire aujourd'hui, il faut le faire en présence de l'État. La présence de l'État aujourd'hui, parce que on parle, il faut que l'État revienne sur l'ensemble du territoire. C'est ce que.
Mais Koulou Métal, juste une question. Est-ce que ces groupes sont écoutés par les communautés?
Si, si, ils sont bien
écoutés.
Pourquoi
avoir besoin d'argent pour juste livrer un message et que ce message.
Je n'ai jamais vu la plus petite association à Bamako ou à Kayo ou à Kidal faire quelque chose s'ils n'ont pas eu un financement. Et pourquoi, quand il s'agit de rebelles, on ne veut pas avoir accès au budget national ou ne pas avoir, être suivi par un accompagnement extérieur?
Non, parce que ce sont des gens qui sont levés.
Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de rebelles. Aujourd'hui, les gens ne sont plus rebelles. Aujourd'hui. Moi, je suis en face de quelqu'un qui, hier, je faisais combat. Mais aujourd'hui, nous sommes les mêmes parce que nous avons un accord qui nous a mis ensemble.
Je pas, permettez-moi, que, avant que le temps nous reprenne, parce que ça vient. Ça,
faut-il réviser l'accord?
Non, je viens. Il y a des choses. Vous savez, quand vous conviez les gens à un débat sur un thème donné, il va falloir éviter. Des questions qui prennent le temps.
On ne peut pas éviter cela parce que c'est un débat, c'est
des questions qu'on pose. Parce que là, nous avons dépassé...
Excusez-moi, c'est un débat. On pose des questions et les invités répondent à des questions.
Exactement, on essaye.
Alors, est-ce qu'il faut réviser, l'accord pour la paix?
Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, si... je pense que dans l'accord, il n'y a pas... Je ne suis pas sûr qu'il faut réviser. Je pense qu'on n'a pas si comment l'appliquer. C'est ça qu'il faut traiter. Est-ce que nous avons mis en
vous
place les mécanismes adéquats pour appliquer l'accord?
Vous, la CEMA, y compris.
Je parle de tout le monde. D'accord. Je ne peux pas juger...
Alors, aujourd'hui, quelle est la solution?
La solution, c'est s'asseoir, c'est voir, faire le bilan, comme c'était l'objet de ce débat-là. C'est faire le bilan de cette mise en œuvre, voir ce qui n'a pas marché, trouver les éléments. Moi, je pense qu'il
faut aussi, appeler les
à lire. Vous savez, il y a beaucoup de démagogie et de populisme.
Est-ce que ça, c'est prévu par les acteurs?
Quoi?
S'asseoir, faire le bilan.
Mais les acteurs le font comme ils peuvent.
Pourquoi
mais,
ça n'avance pas?
Mais ils le font sur des questions spécifiques, ils ne font pas sur l'accord de façon générale. Moi, je pense qu'à un moment donné, nous n'avions pas mis en place un système, un mécanisme adéquat de suivi et d'application de cet accord-là. Il y a des questions politiques. Soit on essaie de bousculer les questions sécuritaires, on oublie les questions politiques.
D'accord. Serge, quelle est la solution aujourd'hui? Vous aurez la parole tout de suite. Serge.
Le centre Jimmy Carter, qui joue un rôle d'observateur de l'application de l'accord, estime que 4 ans après, il y a 25% seulement de l'accord appliqué. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a beaucoup de problèmes. Je pense 2 choses. D'abord, l'État n'est pas un bivouac. L'État a son rôle, mais si vous mettez tout sur le dos de l'État, on ne va pas s'en sortir. Les groupes armés ont aussi une part de responsabilité dans l'application de l'accord. Si l'accord n'est pas appliqué, c'est aussi la faute des groupes armés. Ça, c'est inévitable de le dire. Maintenant, votre question, 1 minute. Pour que l'accord soit enfin appliqué, soit appliqué dans toute sa plénitude, je le répète, je crois que monsieur l'a dit tout à l'heure, Oul Matali n'est pas tout à fait d'accord, mais il faut s'asseoir et dire ce qui ne va pas. Vous savez, ici, on ne peut pas en 1 heure ou en 2 heures parler de ce qui ne va pas. Il y a des problèmes profonds dont on doit discuter, tête à tête, probablement, pour que ça aille. Au sein du gouvernement de la République, il faut être honnête, il y a cette volonté. Mais il faut plus de volonté pour aller de l'avant. Sinon, vous allez nous inviter l'année prochaine, on dira encore les mêmes choses.
Combien de temps peut-on prévoir pour que la mise en œuvre de cet accord soit une réalité?
Moi, je pense qu'on ne peut jamais fixer un chronogramme calé pour l'application de l'accord. C'est une vision qu'il faut essayer d'appliquer au fur et à mesure. Moi, ce que je demande, c'est qu'on applique rapidement tout ce qui est possible et ne pas se faire bloquer par ce qui n'est pas possible en attendant. Parce que vous savez que les choses se règlent au fur et à mesure qu'on avance. Moi, je trouve que cette volonté aujourd'hui qui est animée par le gouvernement et les partis signataires, c'est déjà quelque chose. Et le fait aussi que dire que l'accord n'avance pas, peut-être, je suis d'accord avec lui qu'on parle de 5%, mais dès qu'il y aura, par exemple, tout de suite, les groupes qui sont déjà srilingués, là, qui ont passé au Sri Lanka et qui doivent aller faire leur formation, vous allez voir que c'est un pas géant qui a été abordé. Parce que quand tu auras 1400 et quelques qui vont faire l'armée reconstituée, c'est déjà un pas très important. Vous avez tout de suite la révision constitutionnelle qui est en vue. Ça, c'est très important. Vous avez encore la désignation sur des zones de développement qui vont être limitées. Déjà, ça a été fait, qui ont été connues. Donc, tout c'est à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu le retard, mais le boom sera fait dès que, par exemple, ces choses-là vont prendre la dynamique ensemble. Parce que nous, aujourd'hui, au niveau des mouvements, il y a quatre mathématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la défense, il y a la sécurité, j'ai dit la sécurité, il y a le groupe de développement, il y a les institutions, il y a la réconciliation. C'est-à-dire que les gens veulent aller ensemble. Et moi, je crois qu'il y aura une surprise à un moment donné, parce qu'il y a une volonté manifeste. Parce que quand vous avez dit tout de suite, avec l'actuel gouvernement, nous avons Tchébile Dramé, qui a été l'instigateur, par exemple, de l'accord préliminaire de Ouaga. Aujourd'hui, c'est un homme nouveau, un sang nouveau, qui connaît bien l'accord, qui connaît bien quand même le départ de l'accord. Le socle même de l'accord, c'était les accords préliminaires de Ouaga. Donc, aujourd'hui, nous avons moins d'opposants au niveau politique même à l'accord qu'avant. Donc, il y a une avancée.
Est-ce que Tchébile Dramé est l'homme qu'il faut pour avancer, pour faire avancer?
Non, c'est un homme, quand même, un Malien qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, son talent. Et être dans le gouvernement n'est pas... quand même, n'est qu'un bon tonus pour le gouvernement. Quand même.
D'accord. Parce qu'il connaît bien tout le monde. Parmi les choses indispensables pour avancer, mettre en œuvre l'accord pour la paix, il y a la révision constitutionnelle. Est-ce le cas?
Oui, c'est un élément important parce que j'ai parlé un peu de superficiel, mais là, c'est le fond. Le fond, c'est trois choses. Ce sont les réformes, à la fois d'ordre politique et institutionnel, que ce soit la révision constitutionnelle, les différents lois en rapport avec l'administration, les codes de collectivité et tous ces éléments-là, l'autogestion locale, les transferts de compétences et de ressources, les services déconcentrés de l'État au niveau des collectivités, c'est un élément capital. Deuxième chose, c'est la question de défense et de sécurité. C'est une question de l'armée reconstituée, qui n'est pas uniquement l'intégration d'anciens ex-rebelles dans les rangs, en termes d'effectifs, mais aussi un travail de fond sur les textes de l'armée, sur comment nous voyons notre vision de la sécurité. C'est pourquoi on parle des RSS au Mali. Il y a une réforme du secteur de la sécurité qui accompagne depuis 2013-2014, qui est déjà, on a un conseil national de réforme, qui n'est même pas fonctionnel d'ailleurs, qui était sous la primature, sous la présidence, après la primature, maintenant au ministère de la Réconciliation, mais qui peine à travailler, qui est dirigé par un général, mais qui peine à travailler. Il y a un commissaire à la réforme. Et vous prenez aussi la question du développement. Nous avons la question des zones de développement qui est imminente. C'est une zone où on ne dit pas qu'il faut uniquement une zone pour les Nord, mais il y a une zone aussi qui est créée pour d'autres régions, parce qu'il y a une loi d'ordre général, il y a une loi spécifique sur le Nord, et il y a un décret d'application qui va. Donc trois textes sont en étude. L'autre aspect, c'est la réconciliation. La loi d'entente nationale est un projet en cours. Et si on parvient à s'entendre sur le contenu de la loi d'entente nationale, sans que les ODDH et les sociétés civiles pensent qu'il y a injustice, c'est capital. Les pays ont dépassé ça. L'Algérie, par exemple, c'est avec la loi de la Concorde qu'ils ont trouvé la paix. Il y a autre dimension qu'on oublie souvent. C'est la question, par exemple, des acteurs qui profitent de cette situation-là. Aujourd'hui, lutter contre le terrorisme n'est pas que mobiliser des forces, on l'a vu. Elles sont présentes, mais il y a un travail sur les populations qui doit être mené. L'extrémisme violent qui se développe, il est lié à beaucoup de facteurs. Vous savez, le désespoir est très mobilisateur. Le désespoir est un mobilisateur. Et lorsqu'il est mobilisateur, il est dangereux. Et c'est ce qui fait que beaucoup de couches vulnérables deviennent sensibles au discours radical. Et ça, ce travail ne se fera pas par les armes. Il se fera par le fait de les amener à se sentir dans une république en tant que citoyen à part entière, pas tout court, mais à part entière. Et c'est un travail qui doit être fait. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes une génération qui fait le débat. Ça, c'est très important. On doit saisir l'occasion aujourd'hui d'admettre que pour que notre souveraineté soit réelle, il faut que l'on trouve un système de gouvernance assez adéquat à notre génération, mais aussi qui respecterait la diversité. Et c'est ça. La diversité n'est pas que parce que moi, je suis d'un différent que vous et que voici une république. Dans les deux corps, c'est beau, mais dans la pratique, il faut l'institutionnaliser. Et cette démarche-là, c'est une prise de conscience évolutive. Et ça, je pense que nous sommes dans cette approche-là. Et j'appelle ce que je vais dire, c'est qu'il faut que les gens lisent le contenu du document. Les gens ont du mal. Même nous, à la CMA, je connais des gens qui n'ont pas encore lu l'accord de paix et qui pensent que c'est un retour capital de l'État sans rien. Il faut que les gens prennent le temps de lire d'elles-mêmes. D'autres choses, c'est l'appropriation nationale. On a eu des scènes à la télévision, de l'impression, mais je sens que les populations ne savent pas le contenu de l'accord. Il y a des juristes spécialisés au Mali. Il y a des courants différents. Il faut que ces courants soient mis de façon indépendante, pour qu'ils puissent discuter et faire comprendre que le contenu de l'accord n'est pas une séparation. Mais la décentralisation, ce n'est pas une séparation. Nous avons vu des pays où des systèmes fonctionnent comme ça. Ils sont autant plus souverains que tout ce qu'on voit. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond, d'évolution, de mentalité qu'il faut travailler et admettre que la diversité n'est pas que photo, mais
c'est
aussi un travail.
D'accord, Serge, quelle est l'urgence aujourd'hui?
L'urgence, pour moi, de mon point de vue, si vous voulez que les choses avancent, l'urgence, puisque le véritable problème, c'est sécurité, développement. Si vous voulez la sécurité, il faut une armée réunifiée. Et on peut le faire, cela. Il y a eu des exemples dans d'autres pays. Moi, j'ai vu ici le ministre de la Défense du Canada venir ici. Il est d'origine sikh. Il est venu avec son turban. Mais il est canadien. Les éléments constitutifs d'une nation existent dans ce pays. Je pense que la première chose, l'une des images fortes sur le terrain, ce serait une armée reconstituée, avec de nouvelles règles. De reconstituer. Vous, ce n'est pas de votre faute. Moi, je connais un peu, par exemple, Kidal. Ce qu'on faisait à l'époque, il y a 15 ans, quand on allait à Kidal ou au Matali, on prenait un véhicule ici, d'accord, on arrivait à Gao.
Et pour le développement.
Rapidement, on arrivait à Gao, on laissait à Gao le véhicule et on prenait un 4x4 pour aller parce que le chauffeur du Sud ne pouvait pas conduire. Ce n'est pas de sa faute. D'accord. Ensuite, il faut le développement. Parce que la sécurité ne va pas tout régler. Si vous ne développez pas ces zones-là, vous aurez des problèmes.
D'accord. Merci. Excusez-moi, Serge Daniel, journaliste et écrivain. Ataï Ag Mohamed, membre de la CMA, et Mohamed Ould Metali de la plateforme. Débat réalisé par Studio Tamani. Présentation Mohamedou Touré à la régie vidéo et audio. Salim Djouara et Mamadou Ouattara. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.